Comme vous le savez, on a un travail considérable à faire pour terminer l'œuvre que Dieu a confiée à sa petite Église en ces temps de la fin. Et nous le faisons, pas par notre force, par les bénédictions de Dieu et par les moyens qu'il nous donne. Et d'ici la fin, on va le faire encore plus et avec plus d'intensité, avec beaucoup plus d'impact sur le monde. Et on voit par la Bible que cet impact-là va aller au maximum au temps de la fin. Et pour être capable de faire ça, Dieu met à notre disposition des moyens ou des outils ayant de plus en plus de portée. Le titre de mon message aujourd'hui, « Des moyens de terminer l'œuvre ». Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Je ne vous apprends rien, c'est très clair dans les textes et c'est très clair sur la scène mondiale quand on voit le déroulement des événements prophétiques qui s'accomplissent. Et à cause de tout ça, à cause des temps où nous sommes rendus, Dieu va se manifester de plus en plus au milieu des siens et va bénir le travail de nos mains parce que nous sommes de nous-mêmes impuissants, mais comme on doit avoir un impact plus grand à mesure qu'on approche de la fin, Dieu va nous donner cette bénédiction-là. Allez dans Actes 17. On va voir en parallèle quelque chose qui s'est produit au début de l'Église du Nouveau Testament. Des événements majeurs où on a vu Dieu intervenir pour mettre son sceau d'approbation et manifester sa présence. Actes 17, on va lire les versets 1 à 6. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux. Alors, voyez-vous, même après la mort du Christ, le sabbat était toujours observé. Paul est allé prêcher ici durant trois sabbats de suite à Thessalonique. Il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ, donc le oint de Dieu, l'envoyé de Dieu. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Et c'est sur cette dernière petite phrase-là que je veux attirer votre attention. C'est qu'à ce moment-là, ces Juifs méchants qui ne voulaient pas perdre leur position s'en prenaient aux serviteurs de Dieu, à Paul et à ceux qui prêchaient, et même à ceux qui étaient des chrétiens. Et regardez l'accusation qu'ils soulignaient en ce qui les concerne. Ils disaient, ils bouleversent le monde. Ce qui se passait à ce moment-là, on ne le réalise pas toujours quand on lit rapidement les textes, mais ce qui se passait à ce moment-là, c'est que les enseignements des apôtres et des premiers ministres de Dieu avaient un tel impact qu'on en arrivait à dire, ils sont en train de bouleverser tout notre monde. Et c'est ce qui se passait. Et c'est ce qui va se passer au temps de la fin aussi. Ça fait partie de notre mission. De prêcher la vérité dérange, et surtout quand on va avancer dans le temps encore un peu plus, cette vérité-là va devenir comme une lumière éclatante au milieu de ténèbres de plus en plus grands. Et quand ces ténèbres-là seront rendues au maximum, allez à Apocalypse 11, ça atteindra son apogée au moment où Dieu va désigner deux de ses serviteurs comme étant ceux qui doivent rendre un témoignage mondial, puissant, dans les trois dernières années et demie, celles qui correspondent à la grande détresse. Apocalypse 11, versets 3 à 6. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, donc d'expliquer la parole et d'annoncer ce qui vient, revêtu de sac pendant 1260 jours, les 3 années et demie de la grande détresse. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, parce qu'ils ne seront pas populaires, pas du tout populaires, comme Paul n'était pas populaire, comme les autres ne l'étaient pas. Si quelqu'un veut leur faire du mal, et ils vont vouloir les arrêter, ils vont vouloir même les tuer, tellement qu'à la fin, ils vont réussir à les faire mourir, mais c'est prévu dans le plan de Dieu, et pas longtemps après, ils vont revenir à la vie, et ce sera le retour de Christ. Mais il dit, si quelqu'un, au cours de ces 3 années et demie, veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Donc, ils peuvent décréter un arrêt de mort sur certaines personnes dans le monde à ce moment-là, et ces personnes-là mourront. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, pendant les 3 ans et demi. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Est-ce que vous réalisez que c'est un peu le même phénomène que celui qui s'est produit du temps de Moïse, quand Dieu s'est servi de son serviteur pour envoyer des plaies précises de grande envergure, semblables à celles-là, semblables à celles qui vont se produire au temps de la fin? Et ça, ça va marquer la fin de l'œuvre présente, la fin de l'étape actuelle de l'œuvre. Les deux témoins vont marquer la fin de l'annonce de l'Évangile, mais ça sera annoncé au monde entier. Parce que quand vous lisez tout le chapitre, vous voyez que toute la terre sera informée de ça en même temps. Et même que toute la terre va les voir une fois qu'ils seront mis à mort à Jérusalem, ils vont les voir chez eux avec les systèmes de transmission satellite qu'on a aujourd'hui et toute la technologie moderne. Ce sera possible, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais maintenant, c'est possible. Donc, Dieu va bénir son œuvre de façon spéciale et nous montre d'avance ce qui va se passer. Et ça, c'est encourageant, parce que le Dieu Tout-Puissant va le faire arriver. Et c'est à ses serviteurs qu'il montre les choses qui viennent, pour nous encourager et nous montrer où on est rendu en même temps dans le temps. Le Christ avait dit qu'il n'abandonnerait pas son Église. Et il ne l'abandonnera pas non plus. Toutes ces choses-là vont se produire. À son départ pour le trône de son Père, le Christ n'a pas dit à ses disciples, « Bon, là, je vous laisse. Faites de votre mieux. J'espère que ça va marcher. Et puis, on se reverra peut-être plus tard. » Absolument pas. Il a dit, « Je vais revenir de la même façon dont je suis allé au ciel, comme les anges ont averti les apôtres la journée où il est monté. » Et il dit, « Je vais revenir et je vous prendrai, de sorte que là où je suis, il était sur la terre, je vous prendrai avec moi. » Parce qu'il sera sur la terre, ce sera à son retour. Alors, il leur a donné des moyens, des outils spéciaux pour accomplir la mission. Et il en a donné tout au long de l'histoire. Même si à certains moments donnés, l'Église est devenue très faible, minime, et qu'elle a presque disparu. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une autre prophétie qui avait dit que les portes du séjour des morts ne prévaudraient pas contre l'Église, qu'elles ne seraient jamais détruites, même si elle est devenue tout petite. Alors aujourd'hui, dans le message, on va voir quelques-uns de ces outils ou ces moyens spéciaux qui sont à notre disposition individuellement et collectivement en tant qu'Église pour achever l'œuvre que Dieu nous a confiée. Allez dans Matthieu 28, Matthieu chapitre 28. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que le premier moyen spécial qui est mis à notre disposition pour accomplir l'œuvre, ça passe par le Christ, parce que tout commence par lui et tout est fondé sur lui. Ça commence avec l'action directe du Christ, dont un des titres que j'aime beaucoup, c'est qu'il est le chef suprême de l'Église. C'est lui qui est le chef de la petite Église de Dieu. Et c'est lui qui a dit, « Je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. » Matthieu 28 et le verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Ça, c'est juste avant qu'il retourne au ciel. « Tout pouvoir, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est énorme, ça. Cette déclaration-là, le Christ dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été confié. Il est le Tout-Puissant selon la volonté de Dieu. Après ça, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ici, je fais juste une petite pause. L'Église de Dieu a la responsabilité d'enseigner uniquement ce que le Christ a enseigné. On ne doit rien ajouter, rien retrancher. On ne peut pas innover. On doit enseigner exactement ce qu'il nous a enseigné. Et les gens sont frappés par ça habituellement, ceux qui viennent à l'Église. Ils disent, on a vérifié vraiment dans la Bible si ce que vous dites est biblique, et c'est ça. Mais ce n'est pas surprenant pour nous parce qu'on s'astreint à cette discipline-là, comme le Christ nous a dit de faire. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. On ne va pas plus loin, ni moins loin. Et regardez le dernier bout. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de la société où nous sommes rendus, nous, à la toute fin de l'histoire humaine, l'histoire malheureuse qu'elle a vécue jusqu'à maintenant. Il dit, je vais être avec vous. Lui, le chef suprême de l'Église, je vais être avec vous en tant que groupe, mais en tant qu'individu formant ce groupe-là aussi. C'est aussi important pour lui, chacun des individus, que le groupe. Il est mort pour chacun de nous individuellement. Alors, voyez-vous la considération qu'il a et en même temps, l'encouragement qu'il a donné, qui s'adresse à nous aussi, je vais être avec vous jusqu'à la fin, je vais être là. N'ayez pas peur, je vais vous soutenir, je vais vous bénir. Je vais vous donner le courage dont vous avez besoin. Je vais aplanir les sentiers. Parfois, je vais enlever l'épreuve. Parfois, je vais vous donner la capacité de passer à travers l'épreuve. Mais je vais être avec vous jusqu'à la fin. Il a fait la même déclaration. Ça a été rapporté dans Marc, chapitre 16. Allez juste un peu plus loin. Dans le livre de Marc, au chapitre 16. Et le Christ n'a jamais changé. Il est le même. Et il continue d'être puissamment impliqué dans son Église. Marc, chapitre 16, on va lire les versets 19 et 20, où le Christ fait la même déclaration d'appui avant de retourner au trône de son Père. Versets 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et regardez ce qui s'est passé après, parce qu'il avait déjà commencé à mettre en pratique cette promesse d'être avec eux jusqu'à la fin, depuis le début. Et ils s'en allèrent, les disciples, les apôtres, prêcher partout. C'était leur travail, leur mission. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il était avec eux, et surtout au début de l'Église. On voit par les textes qu'il y a eu de grands prodiges qui ont été effectués à ce moment-là, justement parce que c'était une étape majeure, c'était le début de la toute petite Église de Dieu. Dieu mettait son sceau, en mettant son sceau par les miracles et les prodiges qu'il leur donnait d'accomplir, ça montrait que c'était son Église et qu'il était entièrement avec eux. Acte 12. Allez dans Acte 12, s'il vous plaît. Il y a eu de nombreux miracles éclatants qui se sont faits au début de l'Église, justement parce que Dieu voulait marquer le fait que c'était son Église et que c'était un démarrage canon, si vous voulez. Et il fallait que ça paraisse. Acte 12, on voit ici l'épisode où Pierre a été délivré miraculeusement de prison. Ça vaut la peine qu'on regarde ça, ça nous montre la puissance du grand Dieu que nous servons. Acte 12, versets 6 à 10. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats dans la prison. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison, pas moyen de sortir. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il en fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se passait, si c'était réel ou imaginaire. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Et regardez le verset 11. Revenu à lui-même, comme s'il venait de se réveiller, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Alors, voyez-vous, dès le début de l'Église, il y a eu des grands prodiges qui ont été faits pour illustrer que c'était son petit troupeau et que l'œuvre démarrait sur des chapeaux de roue. Vous avez le cas de Paul aussi. On va regarder ce deuxième cas-là. Le cas de Paul, allez à Actes chapitre 9, s'il vous plaît. Le cas de Paul, un pharisien qui était en route pour aller faire arrêter et faire tuer des chrétiens qui vivaient à Damas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été jeté par terre, il a été rendu aveugle, il a été confronté sur les lieux mêmes par le Christ lui-même. Toute une étape. Acte 9, nous allons lire les versets 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Alors, ce qui arrivait à ce moment-là, on n'ira pas dans tous les détails, mais c'est que Dieu appelait cet homme-là qui était un ennemi de l'Église, pas n'importe qui était un ennemi de l'Église, qui faisait mourir des chrétiens. Il a appelé cet homme-là pour qu'il travaille pour lui avec la même intensité pour le bien au lieu de travailler pour le mal et qu'il devienne l'apôtre en charge des non-israélites, si vous voulez. Regardez au verset 15, même chapitre. « Va vers cet homme, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, Dieu parle de Paul ici, pour porter mon nom devant les nations. » Devant les nations, ici, ça veut dire les nations non-israélites. « Devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Alors, il était donc chargé, lui, d'aller vers les nations païennes, non-israélites. Toute une mission. Et là, il fallait ensuite que les chrétiens, qui étaient les seuls Israélites de l'époque, qui étaient seulement les Israélites à l'époque qui formaient les chrétiens, il fallait que ces chrétiens-là comprennent que Dieu était en train d'ouvrir une porte pour que les non-Israélites soient appelés au salut, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et ils étaient réfractaires à ça. Ce n'était pas une nouveauté qui les réjouissait, au contraire, ils se sont mis en garde contre ça. Et c'est pour ça que peu de temps après, on va aller à Actes chapitre 10, peu de temps après, parce que Dieu ouvrait la porte pour que les non-israélites soient appelés à l'Église, il y a deux personnages qui ont eu chacun une vision au même moment ou à peu près. D'abord, un chef d'armée, chef d'une cohorte italienne, nommé Corneille. Ce n'était pas un Israélite. Lui a eu une vision comme de quoi il fallait qu'il fasse venir l'apôtre Pierre. Et de son côté, l'apôtre Pierre, lui aussi, a eu une vision dans les mêmes temps pour l'amener à comprendre que Dieu appelait maintenant des gens considérés comme païens, non Israélites, que ça c'était nouveau, mais que Pierre devait commencer par comprendre ça puis il devait l'expliquer aux autres. Il a fallu qu'il l'explique à l'Église après. Mais c'était tout un changement, là. On va le voir dans les textes. Voyons Acte 10, versets 28 à 35. « Vous savez, leur dit-il, c'est Pierre qui parle, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou même d'entrer chez lui. » Voyez-vous comment c'était sectaire, comment c'était séparé? Un juif ne pouvait pas entrer chez un non-juif. Et là, Corneille lui demandait d'aller dans sa maison. Et là, Pierre leur dit, écoutez, pour un juif, là, c'est quelque chose de gros parce que ça ne m'est pas permis d'entrer dans la maison d'un non-juif. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Alors, Pierre commençait à ce moment-là à comprendre cette vérité-là et à pouvoir l'expliquer. Verset 29, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir chez Corneille, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à 7 heures, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes, parce que c'était un homme qui faisait du bien. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corailleur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur a ordonné de nous dire. Voyez-vous, Corneille et sa famille étaient réunis et des amis. Ils disent, on est maintenant suivant la directive de Dieu devant toi. Dis-nous ce que tu as à nous dire, ce que Dieu veut que tu nous révèles. Et regardez le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, et en passant, c'était son premier sermon à des non-israélites. Avant ça, il avait fait un sermon le jour de la Pentecôte, mais c'était des Israélites qui étaient sur place. Mais là, c'est son premier sermon à des non-israélites. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » C'était tout un pas à faire pour Pierre, mais Dieu lui a donné la force d'être capable de le faire. Mais ensuite, il fallait qu'il explique ça à l'Église. Parce que là, l'Église était sur ses gardes et n'acceptait pas cette chose-là. Il y a eu de fortes réactions négatives de la part des chrétiens. Juste au chapitre suivant, début du chapitre, on voit ce que je suis en train de vous dire. Acte 11, versets 1 à 4. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Oh boy! Ça, c'était pour eux, c'était pas normal. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, donc les chrétiens, lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as même mangé avec eux. » C'était inacceptable. Regardez le verset 4. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et là, il leur explique tout ce qui est arrivé et comment Dieu lui avait donné de comprendre qu'à partir de là, les non-israélites étaient appelés pour certains d'entre eux, à faire partie de l'Église. Qu'est-ce qui se passait? Le chef suprême de l'Église, le Christ, dirigeait ces opérations-là, étape par étape. Il faut le voir dans cet angle-là, puis ça nous aide, nous, aujourd'hui, parce que c'est le même Jésus-Christ, aujourd'hui qu'hier, qui dirige sa petite Église dans les étapes que nous avons à franchir. C'est lui qui dirigeait les opérations, et c'est lui qui a promis, et qui nous a promis à nous aussi individuellement de ne pas nous laisser, de ne pas nous abandonner, comme c'est marqué dans Hébreux 13, verset 5. Et ça, c'est la même chose qui était arrivée à Moïse au moment où Moïse a passé la direction de la nation d'Israël entre les mains de Josué, selon le plan de Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse, non, tu ne rentreras pas en terre promise. Tu vas t'endormir et c'est Josué qui va continuer le travail et qui va permettre à Israël d'entrer en terre promise. Mais regardez ce qui s'est passé, comment le Christ, le Dieu de l'Ancien Testament, l'Éternel, est intervenu de la même façon en ce qui concerne Moïse. Deutéronome, chapitre 31. Deutéronome, chapitre 31. Versets 7 et 8. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui le mettras en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Vous, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le Christ est toujours impliqué dans son Église. Et là, il dit, « Je vais marcher devant toi, je serai avec toi. L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Et c'est la même chose qu'on doit appliquer en ce qui nous concerne. Il y aura des choses très inconfortables dans les temps qui viennent. Mais il faudra avoir les yeux sur le chef suprême de l'Église qui nous dit qu'il va nous amener à terme. Et ça s'adressait aux Israélites, mais ça s'adresse à nous. Regardez le verset 6, un peu auparavant. « Fortifiez-vous », ici il parle au pluriel, parle aux membres de la nation d'Israël, non seulement à Josué, ça s'adresse à nous. Et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Le Tout-Puissant, avec sa petite Église et avec chacun de ses petits frères et ses petites sœurs qui sont appelés, malgré les turbulences qui viennent devant nous. Alors, on a vu que le premier moyen, si je peux m'exprimer ainsi, pour terminer l'œuvre, c'est le Christ lui-même. C'est l'action directe du Christ dans son Église, avec le groupe et avec les individus. Mais le deuxième moyen, ça concerne quelqu'un que vous connaissez bien, vous et moi-même. C'est l'action que nous, on a à faire. Premièrement, il y a eu l'action directe du Christ qui se continue jusqu'à la fin, mais ensuite, ça doit être notre action à nous, qui doit être consciente, on doit en être conscient et en vivre, elle doit être volontaire et elle doit être soutenue, d'où la persévérance dans ce que nous savons devoir faire. Jacques, chapitre 4, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 4. On va lire les versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Ça, c'est notre combat là, à tous les jours. Vous le savez, à tous les jours, c'est la même chose. Il y a des journées qui sont plus faciles que d'autres, mais il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Et on a des combats à mener pour ne pas déroger des lois de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et le principe sur lequel je vais attirer votre attention, c'est le début du verset 8. Notre part à jouer. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Le contraire est vrai. Si je m'éloigne de Dieu, il s'éloignera de moi. Et j'aurai moins sa force, sa présence, son aide. Nous approcher de Dieu pour qu'il s'approche de nous, pour qu'il soit avec nous et dans tout ce que nous avons à faire. Parce que c'est lui qui nous montre qu'il est notre guide, il est celui qui nous pardonne, qui nous console, qui nous encourage, qui nous protège et qui va nous amener à terme. Et c'est pour ça que chaque jour, et c'est très important de maintenir le rythme, surtout dans la vie trépidante et très occupée que nous menons maintenant. C'est pour ça que c'est essentiel que chaque jour, nous parlions à Dieu, que nous le prions. C'est ça, prier Dieu, c'est lui parler, se confier à lui, lui demander son aide, le remercier, le reconnaître dans tout ce qu'il a fait, être reconnaissant envers lui. Une journée, on lui parle de certains aspects de notre vie pour lesquels il est intervenu. Une autre journée, on lui parle de d'autres choses en ce qui concerne ça. Mais jamais, M. Appartient nous disait, commencez toujours vos prières par remercier Dieu. Ça va vous mettre dans la bonne perspective que tout nous vient de lui. Remerciez Dieu, demandez son aide. Demandez son aide pour l'œuvre, bien sûr, et demandez son aide pour les autres aussi, pour qu'ensemble, on avance. Et je dois faire une petite parenthèse ici. Il y a des choses qui me frappent de façon spéciale des fois dans l'œuvre. Il y a des gens qu'on ne voit pas nécessairement souvent, des gens âgés, des gens malades, des gens isolés, qui vivent des fois seuls dans une maison de retraite ou chez eux. Et vous seriez surpris de voir à quel point ces gens-là font l'œuvre de Dieu. Des fois, ils ne peuvent même pas venir régulièrement ou presque jamais, sinon jamais, à une réunion de sabbat. Mais ils soutiennent l'œuvre de toutes les façons possibles. Et une des façons par laquelle ils soutiennent l'œuvre, c'est par leur prière pour les frères et les sœurs. Il y a des gens qui me demandent des fois parmi ces gens-là, et je me rappelle, c'était le cas de Mme Arsenault. Mme Arsenault, parfois, je lui parlais durant la semaine, elle disait, « Monsieur Brochu, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui a besoin de prière, qui passe par des situations difficiles et pour lesquelles on pourrait prier? » Voyez-vous, le travail qui se fait, ça passe sous silence, presque inaperçu, mais pour que l'œuvre avance. Des gens qui prient les uns pour les autres. Et ça arrive encore qu'il y a des gens qui me disent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin en particulier de prière? Ça, c'est soutenir les autres pour qu'on arrive en même temps. Et ces gens-là prient aussi pour que l'œuvre réussisse, pour que Dieu fasse aussi qu'il y ait l'abondance économique dans son Église, qu'il y ait davantage de dîmes et d'offrandes qui arrivent à l'Église, pour qu'on puisse terminer le travail, acheter du temps d'antenne, donner plus de littérature à gauche et à droite et à ceux qui le demandent. Alors, voyez-vous, chaque jour, on doit prier. On ne doit jamais, jamais, jamais passer une journée sans prier Dieu. Si on le fait, on s'affaiblit. On est moins en contact avec notre protecteur, avec notre force, avec notre soutien. Alors, c'est pour ça que pour s'approcher de Dieu, il faut lui parler. Et deuxièmement, il faut l'écouter. Et la seule façon de l'écouter, c'est d'entendre sa parole. Donc, de lire ce qu'il nous a dit dans sa parole, ou d'écouter des sermons, et ainsi de suite. On doit se nourrir. Pas passer 2 heures par jour à la télévision ou sur Facebook ou sur ces choses-là qui sont des pertes de temps totales. Totales, et qui parfois risquent de nous amener dans des choses contraires à Dieu. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'il peut avoir de bon encore dans quelles émissions à la télévision, sinon dans certains documentaires animaliers ou des choses du genre. Ce n'est plus notre monde. Notre priorité, c'est de se préparer parce que bientôt, le sifflet sera donné pour la fin de ce monde-là. Et ceux qui seront prêts seront traités de façon particulière. Donc, chaque jour, prier, chaque jour, étudier. Et après ça aussi, méditer sur ce qu'on a appris. Pas seulement au cours de la journée, mais ce qu'on sait par la Bible, ce qu'on a appris au cours des années. Et je vais vous dire comment ça nous revient. J'ai vécu une expérience la semaine dernière qui m'a donné à réfléchir là-dessus, qui donne peut-être un bel exemple. On va commencer par aller dans le psaume 119. Psaume 119, s'il vous plaît. Le plus long des psaumes. Psaume 119, regardez le verset 97. « Combien j'aime ta loi! » Bien, pour l'aimer, il faut la connaître. Puis pour la connaître, il faut la lire, la relire, y penser, l'écrire même. « Elle est toujours l'objet de ma méditation. » Il faut y penser à ce qu'on a lu. Et plus on le lit, plus ça s'inscrit profondément dans notre esprit et dans notre cœur. Quand on a besoin de s'en servir, c'est là. C'est là, c'est en réserve. Et le petit exemple que je veux vous donner, c'est ceci. C'est que la semaine dernière, à un moment donné, je n'avais pas le choix. Il fallait que je fasse refaire le surfaçage de l'asphalte dans mon entrée de cour. Bon, ce n'est pas donné. C'était un travail tout petit en surface, c'est pas de refaire toute l'asphalte et tout ça, mais ça montait, ça s'en allait vers les 400 $. Donc, c'est pas rien. Mais après que les travaux ont été faits, ils ont tout goudronné. En fait, c'est goudronner l'ensemble puis faire les petites corrections. Le monsieur vient content, je lui dis merci, vous avez fait un beau travail. Bon, il dit, est-ce que vous allez me payer en argent? J'ai dit, ben je pensais vous payer en chèque. Je ne veux pas penser plus loin que ça. Je pensais vous payer en chèque. Ben, il dit, si vous me payez en chèque, je vais être obligé de vous charger les taxes. Fait que là, le fait que je connais la loi de Dieu, c'est pour ça. Le fait que je connais la loi de Dieu, je n'ai pas de mérite parce qu'il faut la mettre en pratique. Si je ne paye pas les taxes, je vole. Je vole le gouvernement. Et les chrétiens doivent se soumettre au gouvernement. Alors, j'ai dit au monsieur, non, je préfère vous payer par chèque. Chargez-moi les taxes. Ça m'a chargé encore 50$ de plus, 50$ de plus, mais j'étais content. Pas content de payer 50$ de plus, mais content, oui, de faire la volonté de Dieu, d'être en règle avec Dieu. Ça vaut ça, et ça vaut même plus que ça. Dieu m'a tout donné. Alors, voyez-vous, le fait qu'on connaît la loi de Dieu et que plus on avance, plus on l'apprécie, plus j'aime ta loi, bien, j'aime la mettre en pratique. Le monsieur ne m'a pas demandé pourquoi, il a été un peu surpris. Pourquoi il paierait 50$ de plus, le monsieur? S'il me l'avait demandé, j'aurais dit, exactement. C'est que pour moi, c'est important de respecter les lois qui sont là. Puis en plus, j'aurais pu lui dire, monsieur, si vous voulez avoir votre régime de rente, puis avoir vos pensions du gouvernement, c'est peut-être bon que certains contribuent par leurs taxes. C'est comme ça que ça peut revenir. Voyez-vous, je n'ai pas dit ça, j'ai juste dit non, chargez-moi les taxes, je vais les payer. Alors, c'est important et ça doit être comme ça dans tout. Méditer, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement s'asseoir devant la maison et dire à quoi je méditerais bien. Là. C'est qu'au cours de notre journée, il arrive des situations où on fait appel aux choses qu'on a lues, qu'on a apprises, qu'on a entendues plusieurs fois et on les met en pratique. Et là, on sait que ça plaît à Dieu puis on sait qu'on est en bonne direction. Il y a une grande réalité qui approche dans le monde de demain. C'est que, vous savez par la Bible, nous allons être des dirigeants et nous allons être des enseignants. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Vous savez, c'est surprenant quand on arrive à la fin d'un cycle d'études quelconque ou d'études universitaires, puis qu'on reçoit notre diplôme et qu'ensuite on va rentrer sur le marché du travail comme avocat ou comme médecin ou comme charpentier ou quoi que ce soit, c'est toujours impressionnant le lendemain là, d'être « c'est nous qui faisons le travail ». Mais c'est comme ça que ça va d'être. Tout de suite après le retour de Christ, il faut être capable d'opérer. Donc, il faudrait être conscient de la loi, la connaître, d'en avoir vécu, être capable de l'expliquer, puis être capable d'encourager les gens à la comprendre. Allez dans Deutéronome 17, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 17. Et on va trouver là des directives que Dieu a données à ceux qui allaient devenir les futurs rois sur Israël. Et comme nous, on va devenir de futurs rois, ces mêmes directives-là s'appliquent exactement à nous. Alors, Deutéronome 17, on va lire les versets 18 à 20. En parlant du roi, Dieu donne les directives suivantes. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui. Le roi lui-même devait écrire, là, devait écrire toute la loi. Dans un livre, une copie de cette loi. Il fallait qu'il copie lui-même toute la loi qui existait sur les parchemins à l'époque. Pourquoi? Pour qu'il l'apprenne, qu'il la sache comme il faut, par cœur. Une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Hey, on peut dire, écoutez, il était roi, il n'avait pas le temps de faire ça, il avait d'autres choses à faire. Non, non. Pour que les autres choses à faire marchent bien, il fallait qu'il commence par les bonnes choses à faire. Chaque jour, écrire une partie de la loi et la méditer tous les jours de sa vie. Pour apprendre à craindre lui-même, l'Éternel, son Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne point de ses commandements, parce qu'on oublie tellement facilement et on néglige tellement facilement en se laissant absorber par des choses autour. Il faut que les priorités demeurent les priorités. Et qu'il ne s'en détourne ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Et c'est pour ça que c'est bon de nous-mêmes écrire des choses que nous lisons. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans l'Église ici qui font leurs études, qui écrivent des versets, qui écrivent des commentaires ou des petites questions qu'ils ont au fur et à mesure. Même certains d'entre nous, nous avons appris les commandements par cœur en les répétant. Ça fait un exercice de mémoire, puis en même temps un exercice qui a de la valeur, telle qu'elle la formule longue des 10 commandements. Il faut réfléchir comment on pourrait régler les problèmes qu'il y a dans la société. Ça nous désole de voir ce qu'il y a, mais faites l'autre pas. Vous allez voir, ça devient intéressant. Faites le pas suivant. Qu'est-ce que moi je pourrais faire pour régler le problème si j'avais les pouvoirs nécessaires? On peut y réfléchir parce que vous allez devoir le faire. Quand le Christ va être revenu, vous allez devoir en régler des problèmes. Quelqu'un me mentionnait, justement, je parlais avec des dames lors de la Pentecôte, et c'est intéressant, il y a une dame qui disait, « Monsieur Brochu, pensez-vous que dans le monde à venir, il va y avoir des villes? » Fait que j'ai dit à la dame, « Oui, il va y avoir des villes. » Regardez, c'est dit que comme récompense des serviteurs de Dieu, certains vont avoir une ville, deux villes, cinq villes à prendre soin, certaines régions. Donc, il y aura des villes, mais ça ne sera sûrement pas les villes comme il y a là. Alors, pensez à ce qui devrait être différent pour que les gens soient bien, pour que les gens ne se pilent pas sur les pieds, pour qu'il y ait une vie paisible, qu'il y ait une vie heureuse, qu'ils puissent se déplacer sans problème. Il y a tellement de choses à changer dans ce qu'on voit autour pour bâtir des villes. On va commencer à zéro, là, pour bâtir des villes qui soient fonctionnelles, qui soient agréables à vivre. Intéressant. Alors, voyez-vous, c'est ça, se nourrir de la parole. Savoir ce qu'on a à faire plus tard et utiliser notre esprit pour imaginer les choses qu'on pourrait changer. Ça, c'est des belles choses à méditer. Au contraire, lui, Satan, notre adversaire, voudrait qu'on soit très occupé, à plein d'autres choses que ça. Il voudrait qu'on soit affublé d'un programme extrêmement chargé, de faire toutes les activités possibles, tous les loisirs possibles, être au courant de toutes les choses possibles, être le moins possible avec Dieu. C'est ça, dans le fond. Mais si on joue ce jeu-là, on ne s'approche pas de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Voyez-vous la différence? C'est pour ça qu'il faut constamment recentrer nos priorités sur Dieu et sur notre développement spirituel. Je dis constamment recentrer parce que les risques sont là et sans s'en rendre compte, on se laisse absorber par des choses autour et finalement, sans s'en rendre compte, on s'éloigne de Dieu. Dans le même sens, il faut, comme j'en ai parlé dans un message récemment, aussi demander et utiliser chaque jour la puissance de Dieu, son Saint-Esprit. Chaque jour. Prenez conscience de ça. Si vous demandez jamais à Dieu son Saint-Esprit, est-ce que vous avez sa puissance chaque jour? Demandez-lui sa puissance. Vous en avez besoin, moi aussi, chaque jour. Je ne me rappelle pas une journée que je n'ai pas demandé à Dieu de me donner son Saint-Esprit. Puis j'en ai besoin de garder cette discipline-là pour être capable de discerner ce qui est bien selon les lois de Dieu et d'être capable de le faire. Jean 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, même qui les écrit, même qui les apprend par cœur, qui y pense, c'est celui qui m'aime. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Hein? Et c'est par l'amour de Dieu qu'on peut le faire, par son esprit. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voyez-vous, si je m'applique à vivre selon les commandements de Dieu, le Christ dit, je vais me faire connaître davantage à lui. Comment? Je vais lui révéler d'autres choses. Je vais lui aider à comprendre les circonstances qui lui arrivent. Je vais lui montrer à savoir quoi décider dans telle circonstance. Je me ferai connaître à lui parce qu'il est en train d'observer mes lois. Verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voyez-vous le rapprochement de Dieu? Si vous vous appliquez, si je m'applique à vivre selon ses lois, il dit... Je vais faire, mon Père et moi, nous allons faire notre demeure chez lui. Verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et c'est ça qui fait que quand on arrive dans certaines circonstances difficiles, qu'on a des décisions à prendre, qui va nous inspirer, si on est proche de lui, qu'on est en train encore d'apprendre, même si on n'a pas la réponse immédiatement, on est capable de lui faire confiance, de lui mettre ça dans ses mains, de laisser le problème là et d'attendre qu'il nous montre la réponse. Formidable. C'est ça notre chemin. Et c'est tellement encourageant. Si on diminue d'obéir à Dieu, on perd graduellement son Saint-Esprit. On faiblit et on est à risque. Au contraire, il faut se nourrir chaque jour de sa parole et demander son aide. Un troisième moyen... Pour terminer l'œuvre, c'est justement l'action du Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il y a des choses qu'on doit comprendre dans ce qui s'en vient. Mais c'est par la puissance de Dieu qu'il va nous révéler de quoi il s'agit quand nous aurons besoin de les comprendre. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète Daniel. Quand le prophète Daniel a eu besoin et qu'il a désiré comprendre la fameuse prophétie de Jérémie, son contemporain, sur les 70 semaines, c'est ce qui s'est produit. Il a prié Dieu, il s'est approché de lui, il a jeûné et Dieu lui a révélé ce qu'il avait besoin de savoir. Allez dans Daniel 9. Daniel chapitre 9. Ça vaut la peine. Daniel chapitre 9, on va lire versets 1 à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres, et c'était par le livre de Jérémie, comme on voit dans... Jérémie 29, 10, il dit, « Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Et regardez ce qu'il a fait pour apprendre la réponse, pour que Dieu lui montre par son esprit. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière, comme je vous ai dit tantôt, parler à Dieu chaque jour, et parfois il y a des prières plus intenses. » afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, et le jeûne est un outil extrêmement précieux, et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession, et il continue d'expliquer la situation. Il demande pardon pour ses péchés et ceux du peuple, mais il demande à Dieu de l'éclairer. Et regardez le verset 21 et 22. Qu'est-ce qu'il y a comme résultat de cette prière ardente et du jeûne? « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Et après, il lui explique la prophétie des 70 semaines que Daniel voulait comprendre. C'est intéressant, on voit que Dieu révèle par son Saint-Esprit. C'est un des moyens qu'il nous donne pour terminer l'œuvre et terminer notre chemin personnel vers le royaume et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais c'est le même phénomène qui s'est passé avec M. Armstrong, dans le fond, qu'avec Daniel, si vous faites un rapprochement entre les deux. Exactement, même genre de situation et même phénomène. M. Armstrong est arrivé à l'Église de Dieu dans une époque, la cinquième des sept époques ou ères de l'Église qu'on voit dans l'Apocalypse, l'Église de Sardes. Et M. Armstrong a dû découvrir les 18 vérités de base du christianisme original qui avaient été perdues en cours de route. L'Église de Sardes était affaiblie. Quand on voit sa description dans le livre d'Apocalypse, on voit que l'Église était rendue faible, presque au point d'extinction. Dieu dit, il y a seulement quelques hommes qui continuent à marcher en vêtements blancs dans cette Église-là. Et c'est à ce groupe-là que M. Armstrong a été appelé. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui a révélé des vérités qui avaient été perdues. Comment est-ce qu'il a pu les apprendre? Il a fait comme Daniel, il a fallu qu'il obéisse. Il a commencé par obéir au commandement, même au fait qu'il ne comprenait pas, qu'il a observé pendant 7 ans, seul avec son épouse, sans les comprendre, avant d'en comprendre la signification, avant que Dieu ne lui révèle. Et c'est par lui qu'on a pu avoir ça. Il s'est appliqué à obéir, puis Dieu lui a révélé, comme il a fait avec Daniel. Dieu est avec son Église. Le Christ dirige ses serviteurs. Et c'est comme ça, par exemple, que M. Armstrong a appris l'existence des fêtes, qu'il en a compris le sens et qu'il nous l'a transmis à nous aujourd'hui. Alors, nous observons les fêtes en comprenant toute la valeur. Et c'est comme ça que Dieu a révélé aussi à M. Armstrong l'identité des nations modernes descendantes de la nation d'Israël originelle. Et ça a une importance majeure parce que c'est seulement en connaissant qui sont les descendants modernes de la nation ancienne d'Israël qu'on peut comprendre les prophéties qui s'adressent à eux au temps de la fin. Sans ça, on ne peut pas comprendre. Voyez-vous comment tout ça se tient, comment le puissant chef de l'Église a dirigé ses serviteurs quand le temps était venu pour comprendre certaines choses ou pour être capable d'aller plus loin. Et ça nous donne à nous, au temps de la fin, la capacité d'accomplir la mission qui nous a été confiée, d'avertir, un, les nations israélites du châtiment qui s'en vient et de la possibilité de se repentir, et d'avertir toutes les nations de la terre. C'est aussi notre responsabilité en tant que sentinelle, comme on voit dans Ézéchiel. Vous pourrez aller voir Ézéchiel, chapitre 33, versets 7 à 9. Ça décrit un peu notre mission. En comprenant la prophétie, les prophéties, ça nous permet de savoir ce qui vient, un, et deux, ça nous permet de faire l'œuvre en annonçant l'Évangile, non seulement aux Israélites, mais à tous les citoyens de la terre. Et ça sera complété, comme j'ai dit tantôt, par les deux témoins qui vont annoncer l'Évangile. Ce sera la dernière étape de l'annonce de l'Évangile à notre époque. C'est le même Évangile, mais il sera annoncé à ce moment-là au monde entier. Et les caméras de la terre seront fixées sur ces hommes-là qui vont faire des prodiges extraordinaires parce que Dieu va marquer de son sceau le travail de ces deux hommes-là. Mais voyez-vous, parce que Dieu a révélé à M. Armstrong les fêtes, qu'il a révélé l'identité des nations modernes d'Israël, nous pouvons avertir le monde avec précision et les avertir des conséquences qui s'en viennent à cause de la transgression des lois. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Alors, on le voit à travers tout ça. Il l'a fait avec Daniel, il l'a fait avec M. Armstrong. C'était à une époque clé de l'histoire aussi, parce que là, l'étape allait changer. On allait passer de l'ère de Sardes à l'ère de Philadelphie, où Dieu a donné d'accomplir une œuvre grandiose sur la terre. Et ça m'amène au quatrième point. Quatrième point, une immense porte ouverte pour prêcher l'Évangile. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Apocalypse 3 et le verset 8. « Je connais tes œuvres » en parlant de l'Église de Philadelphie sous M. Armstrong. « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cette porte ouverte-là, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est une porte ouverte, on voit par d'autres versets, pour annoncer le message de l'Évangile au monde entier. Ça, c'est à notre époque. C'est ce que Dieu a donné à son Église, cette incroyable porte ouverte. Au fur et à mesure que les moyens de communication modernes se sont développés, à partir de l'appel de M. Armstrong, ça a bougé et les portes se sont ouvertes. M. Armstrong a commencé des campagnes, un peu comme les conférences du monde de demain qu'on fait là, dans ces régions, puis dans plusieurs régions des États-Unis. Il est allé ensuite dans le monde et il a démarré à la radio. La radio était quand même un phénomène assez nouveau dans les années 30, 1930. Il a utilisé la radio avec sa voix tonitruante, puissante, et ça a démarré l'œuvre de façon magistrale. Après ça, il a utilisé ce qu'il connaissait, la presse écrite. Et ça a augmenté de façon fulgurante jusqu'au jour où, dans les derniers temps de l'Église universelle, on publiait chaque mois 7 millions de pures vérités qu'on envoyait gratuitement à travers le monde, dans 7 langues. Déjà à l'époque, mon épouse et moi, on traduisait pour la pure vérité et pour d'autres publications. C'est formidable. Alors, voyez-vous, l'ampleur que Dieu a donnée, le temps était venu pour que le message soit rendu disponible. Il était impressionnant, mais il n'était pas encore impressionnant comme il va l'être quand les deux témoins vont avoir les signes qui vont les accompagner et tout ça. Mais pour vous donner une idée, comment ça a grandi. Après ça, la télévision est apparue, et là, M. Armstrong dit, il faut qu'on utilise ça. Il est allé à la télévision, et tout de suite, ça a donné aussi de grands résultats, et Dieu bénissait l'œuvre financièrement. On a pu couvrir la planète, ou pas au complet, mais beaucoup, dans plusieurs langues, par nos émissions télévisées à l'époque. Et M. Armstrong, aussi, allait rencontrer les rois de différents pays. Je me rappelle quand il avait rencontré le roi Hussein de Jordanie, le président Moubarak en Égypte et tout ça. Il était reçu par les grands du monde. Pourquoi? Parce que Dieu ouvrait les portes. Ce n'était pas à cause de sa personne à lui. Dieu ouvrait les portes. Et ce qu'il annonçait là-bas à ces gens-là, il leur disait, vous avez des problèmes énormes, vous n'êtes pas capable, malgré votre bonne volonté, de les régler, mais il y a une main puissante qui va bientôt agir et qui va apporter une solution aux problèmes du monde. Il annonçait l'Évangile dans des mots qui pouvaient aller et il faisait le travail de façon extraordinaire. Et après ça, il y a eu les ordinateurs. Et tout de suite, quand ça a sorti, M. Armstrong dit, il nous faut ça. Et oui, Dieu l'inspirait d'aller plus loin. Et on a utilisé beaucoup dans les années 80-90. Et aujourd'hui, à cause de tout ça, notre message est présent pratiquement partout sur la Terre. Et maintenant, il y a des moyens modernes où les gens peuvent accéder à la publication de l'Évangile. Tous les moyens, iPad, iPhone, Twitter, Facebook, nommez-les, tout ça, on est un peu partout là-dessus. Donc, on est dans le monde entier pour annoncer l'Évangile. Cinquième point maintenant, dernier point, cinquième moyen dont on peut parler, c'est l'Église a de plus en plus d'outils pour nourrir les appelés, nourrir le petit troupeau. Et regardez tous les sermons qu'il est possible de mettre à la disposition des membres de l'Église, les études bibliques chaque semaine. On en a, nous, ici, le mercredi. Il y en aura bientôt à partir de l'automne de M. Monson chaque vendredi soir. On a un cours de Bible qui est formidable, qui sert aux nouveaux appelés et qui sert dans l'Église aussi, parce que certains, comme je sais dernièrement, reprennent le cours de Bible, approfondissent, et c'est toujours formidable de pouvoir le refaire. Je l'ai fait moi-même. On a de plus en plus de brochures. Nos émissions de télévision s'étendent. On a de plus en plus de sites Internet dans des langues différentes aussi. Alors, Dieu bénit. On est rendu à ce niveau-là pour aider le peuple de Dieu à grandir. On ne peut pas se plaindre en disant qu'on manque de littérature ou qu'on manque de choses à lire. On en a même au-delà de ce qu'on peut suivre. Il faut faire un choix même dans ça. Maintenant, écoutez, je fais une petite remarque parce que au Moyen-Âge, quand vous regardez dans l'histoire. C'était très rare une personne qui avait une Bible. La Bible n'était pas imprimée. Je pense que le premier volume qui a été imprimé, c'est la Bible de Gutenberg dans les années 1600 ou quelque chose du genre, ou 1500 ou 1600, le chiffre m'échappe. Mais je pense que c'est ça. Mais au Moyen Âge, les gens n'avaient pas de Bible, seulement quelques-uns. Et ceux qui avaient une Bible risquaient d'être exécutés. Ils n'avaient pas le droit d'avoir une Bible. Okay? C'était absolument défendu. Et ça a duré longtemps dans l'histoire. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on nous disait de ne pas lire la Bible. C'était défendu. Et même pour mes parents, c'était encore plus sévère que dans mon cas. Nous, on pouvait aller fouiller un petit peu. Mais eux, c'était absolument défendu de lire la Bible. Alors, il n'y avait pas grand chance de connaître la vérité. Hein? Ils entendaient ce qu'ils entendaient de la part des prédicateurs, mais les prédicateurs disaient ce qu'ils connaissaient puis ce qu'ils voulaient bien dire. Les chefs religieux interdisaient la lecture de la Bible. Aujourd'hui, Dieu nous donne une incroyable période de paix, surtout à nous, dans nos pays ici. Période de paix, période d'abondance et période de ressources pour avoir à notre disposition toutes ces choses bibliques, pour être capable d'y consacrer notre temps. Voyez-vous qu'on n'a pas de raison de ne pas s'organiser un programme pour vraiment appartenir à Dieu, pour faire l'œuvre et pour croître spirituellement. C'est ça notre but. C'est ça notre but. On vit dans l'époque de la plus grande abondance spirituelle de toutes les étapes, de toutes les époques de l'humanité. On est béni de façon incroyable. Alors, il faut en être reconnaissant. Puis, il faut utiliser ces outils-là. Ce qui est dangereux dans un cas comme ça, c'est quand il y a de l'abondance, on est porté à relâcher. Parce qu'on prend pour acquis ces choses-là. C'est comme quelqu'un qui tombe dans l'abondance financière. Après un petit bout de temps, il dit, oh, c'est facile, bon, je peux aller plus loin, je peux m'endetter, c'est facile, on m'accorde du crédit parce que j'ai un petit peu de revenus, alors je peux m'endetter un peu plus ou dépenser un peu plus. Et finalement, des fois, je me retrouve dans une situation plus désastreuse qu'avant, quand j'étais pauvre. J'ai vu ça, j'ai connu des gens qui sont devenus riches très, très rapidement et qui ont tout perdu assez rapidement aussi. Alors que j'en ai connu d'autres qui n'ont pas eu beaucoup, mais qui ont vécu comme il faut, puis qui ont toujours fait une bonne vie, qui avaient même à donner à d'autres. La valeur des choses n'est pas la même. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'abondance. L'abondance de santé, ça ne nous est pas dû. L'apprécier, puis s'en servir pour développer le caractère de Dieu, puis faire l'œuvre, puis aider les autres. L'abondance financière, pour faire l'œuvre aussi, pour bien vivre, pour aider les autres. L'abondance de littérature de l'Église et d'accès à la vérité, de l'utiliser en l'appréciant pour développer ce qu'on doit développer. Vous savez, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes ses enfants appelés à naître dans sa famille. Ce n'est pas peu de choses, là. Ce qu'il y a, là, de l'autre côté du retour de Christ, c'est beaucoup plus grand qu'on peut imaginer. Et il est de plus en plus évident, jour après jour, que le monde où nous vivons approche de sa fin. Et laissez-moi vous dire que notre message va bientôt ébranler le monde, comme ça s'est fait au début de l'histoire de l'Église. La même chose va se répéter à la fin de l'histoire de l'Église. Alors, comprenez-vous pourquoi il nous faut, nous, qui sommes rendus à la fin de l'histoire, garder les yeux sur nos responsabilités, nos priorités, garder les yeux sur le Christ, le chef suprême de l'Église, sur la libération prochaine de l'humanité et sur l'avenir fabuleux qui nous attend.